Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.
Chut, on écoute la télé avec votre jardinerie Aste Vert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Zoom Radio, la radio Hit and Style en Dordogne avec Alain Jeanne.
Bonjour à tous, comme chaque lundi à 18h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Zoom Radio.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je vous remercie de nous rejoindre pour ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé, consacré en grande partie au film Nicky Larson, qui sortira dans les salles mercredi. À cette occasion, dans un tout petit instant, vont nous rejoindre Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Ruti et Kamel Gwenfoud. L'équipe au grand complet sera avec nous dans Chut, on écoute la télé. Et on reparlera également de Sam. La série a fait son grand retour avec la saison 3 la semaine dernière et nous allons passer en revue, eh bien, chaque semaine, les personnages de la série. C'est le personnage de Véronique avec Fanny Gilles qui sera notre invitée exceptionnelle. Et puis ce soir sur Canal+, c'est le grand retour de la série tant attendue, la saison 7 de la série Engrenage. Son héroïne, Laure Berthaud alias Caroline Proust, sera donc notre invitée exceptionnelle également pour nous parler de cette saison 7 et évidemment peut-être d'une saison 8. On va lui poser évidemment toutes les questions tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous consacrerons la dernière partie de cette émission au programme du Festival de Luchon. Le festival ouvre ses portes mercredi. C'est une cascade de comédiens, réalisateurs, producteurs et de chaînes de télé qui seront présents à Luchon. On dévoile le programme complet en fin d'émission. Mais tout de suite, on commence, si vous voulez bien, comme d'habitude, par les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, juste avant d'accueillir l'équipe de Nicky Larson, un mot sur les audiences de la semaine dernière. Et on commence évidemment avec lundi. Et Sam, qui faisait son grand retour sur TF1, eh bien c'est un retour réussi avec 4 026 000 téléspectateurs et 18,9% de part de marché. L'amour est dans le pré sur M6 arrive deuxième avec 3 215 000 et 14,9% de part de marché qui ont suivi les premiers portraits des nouveaux agriculteurs de la saison 14. La rediffusion d'Alex Hugo sur France 2 a bien fonctionné. Quasiment 3 millions de téléspectateurs pour 12,8% de part de marché. Mardi, il y avait SWAT sur TF1, valeur sûre, 21% de part de marché et 4 703 000 téléspectateurs. Mais la fiction de France 3 s'est très bien défendue avec 3 224 000 téléspectateurs pour 14% de part de marché. Patron Incognito a bien fonctionné sur M6, ça remonte un peu, 11% de part de marché pour 2 449 000 téléspectateurs. Et puis il y avait du foot également sur France 2, Guingamp, Monaco, et là c'est un petit score, hein. Même pas 2 millions de téléspectateurs pour 9,4% de part de marché. Mercredi, Esprit Criminel eh bien, redonne des couleurs à TF1 qui du coup repasse en tête avec 4 123 000 téléspectateurs et 18,7% de part de marché. Philharmonia qui faisait son final sur France 2, 14% de part de marché, 3 118 000 téléspectateurs. Déraciné des ailes sur France 3, 2 584 000 et Maison à vendre sur M6 est dans sa moyenne à 2 489 000 téléspectateurs et 11,2% de part de marché. Jeudi, TF1 diffusait le profilage avec 24,3% de part de marché et 4 990 000 téléspectateurs. C'est un très beau score. M6 arrive deuxième avec Un homme à la hauteur, 2 819 000. Envoyé spécial sur France 2, 2 748 000. Et Les Trois Frères, eh bien ça c'était sur TMC, ont fait quasiment 1 million de téléspectateurs. Le film culte des inconnus ont culminé à quasiment 5% de part de marché. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur ciné consacré cette semaine au film Nicky Larson. C'est non seulement notre coup de cœur de la semaine, mais du mois de février carrément. Et on a la chance, eh bien, d'avoir toute l'équipe. Alors, on va voir dans un instant, hein, Tarek Boudali, Julien Ruti et Kamel qui seront avec nous. Mais on va commencer cette émission avec Philippe Lachaud et Elodie Fontan. Bonjour à tous les deux.
Salut et merci beaucoup. Merci pour le coup de cœur, ça fait très plaisir.
Quatrième film qu'on fait ensemble et je suis toujours aussi heureux de vous accueillir. Et là, Nicky Larson, c'est tout un pan de notre jeunesse que tu nous fais revivre à travers ce film. Et alors, de quelle façon? C'était extraordinaire. J'ai pu voir le film avant tout le monde et franchement, c'est super réussi. T'avais peur, mais tu vois, pas de raison.
Bah, c'est très gentil. Effectivement, j'avais très très peur de pas décevoir les gens qui connaissaient Nicky Larson et aussi de pas décevoir les gens qui connaissent pas Nicky Larson, notre public plus jeune qui ont aimé Baby Sting, Baby Sting 2. Donc il y avait un vrai enjeu sur ce film et on s'aperçoit que bah voilà, tout le monde kiffe. Donc on est un peu soulagé quand même.
Alors le personnage de Laura, Elodie, n'est pas épargné, hein. Là t'as tout donné, hein, dans le film.
Bah écoute, ouais, non, c'était moi ce personnage, c'est un gros coup de cœur. Je me suis jamais autant éclatée à jouer un personnage que celui-ci. Et c'est vrai que non, c'est un grand cadeau pour une comédienne. Et ça me change. Laura, elle a un côté très garçon manqué, donc ça change un peu des rôles que j'ai pu avoir par le passé. Tu sais, de petite blonde, un peu lisse, un peu fade. Là, pour le coup, c'est un personnage voilà avec pas mal de poigne, qui a beaucoup de choses à jouer, que ce soit en comédie, elle porte quand même beaucoup de comédie, que ce soit en des scènes un petit peu plus tristounes, on va dire. Et elle a un côté, effectivement, où elle est très maternelle avec Nikki, où elle va un peu le protéger. Et un autre côté, à des moments où elle va partir au quart de tour parce qu'elle supporte pas son côté débile dès qu'il voit une nana. Donc c'est vrai qu'il y avait plein de choses à jouer et c'était génial à faire. Je me suis éclatée.
Quand c'est que t'as eu cette idée un peu folle, on peut le dire au premier abord, Philippe, d'adapter Nikki Larson, toi étant fan, évidemment, non seulement tu voulais pas décevoir les fans de cette génération-là, et tu voulais pas te décevoir non plus.
Quand est-ce que j'ai eu l'idée? En fait, c'était sur la promo de Babysitting 2. En fait, bon, c'est un peu la honte, mais ma mère a gardé tous les Dorothée magazines que j'avais à l'époque chez eux.
La même ou quoi?
Et en fait, je suis retombé dessus et je me suis dit, oh, ce serait fou si un jour on refaisait Nikki Larson au cinéma. Ça semblait complètement inaccessible parce que dessin animé japonais, on s'est dit les droits et tout. Enfin, ça nous semblait inaccessible. Et avec le temps, la passion, eh ben, on a rendu les choses possibles. Voilà.
Comment t'as fait pour avoir Dorothée? Pour avoir Jean-Paul Césari, pour avoir Pamela Anderson dans ton film, c'est incroyable.
Il faut coucher, tout simplement. C'est non, on a une chance folle. Franchement, on les remercie. On remercie déjà Dorothée d'être venue jouer le jeu dans le film, parce que ça représente beaucoup pour nous, Dorothée, et pas que pour nous, pour toute une génération. Et c'est vraiment un plus pour le film. Donc merci. Jean-Paul Césari, qui est le chanteur du générique original aussi, qui est dans le film, qu'on remercie. C'est le clin d'œil. On trouve ça top. Et Pamela Anderson. On était les premiers surpris, pour te dire la vérité, qu'elles disent oui. On s'y attendait pas. C'était une surprise. Et c'est incroyable avec Pamela, parce que elle fait preuve de beaucoup d'autodérision dans le film, c'est-à-dire qu'elle se lâche complètement. On s'est dit, ah, une star internationale, est-ce qu'elle va pas nous demander de refaire de changer des choses, pas faire des choses? Et au final, rien du tout. Elle a fait tout ce qu'il y avait écrit, et elle a même fait des impros qu'on a gardées dans le film. À un moment, elle dit, wesh, cousin. Bon, bah, c'est pas nous qui l'avions écrit, et c'est elle qui nous l'a sorti comme ça. Donc, ouais, merci elle.
On en parlera avec Kamel hein, tout à l'heure, mais il y a une très belle partition dès le départ du film, hein, ça part, mais alors, dardard. Et je crois qu'il y en a un qui n'a pas été épargné, c'est Jarry.
Oui, alors, en fait, Jarry, je suis fan de Jarry, ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble, et là, on avait écrit le film, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Jarry? Et en fait, j'avais que ce rôle un peu bizarre, alors je me retrouve très gêné à l'appeler, je dis, ouais, Jarry et tout, et bah, écoute, j'ai peut-être un truc à te proposer, c'est une participation, il me dit, ah ouais, donc il est tout content, il dit, c'est quoi? Et là, plus j'avance dans les explications, plus je le sens moins chaud. Je dis, bah, en fait, c'est un mec tout nu dans un bloc opératoire qui se fait casser la gueule. Mais il me dit, mais il est tout nu. Je dis, il est tout nu, tout nu. Et voilà, il passe par une fenêtre et il atterrit sur un pare-brise tout nu. Il dit, ah, d'accord. Il dit, bah, écoute, et je chantais des blancs au téléphone. Il dit, bah, écoute, envoie-moi la scène, tu vois. Et du coup, je lui envoie la scène et après, il m'a rappelé, bah, dit, écoute, franchement, je trouve ça hyper drôle. Donc, même si je suis pudique et tout, machin, je fais le truc tellement je trouve ça marrant. Et pareil, je le remercie parce que c'est Jarry, c'est parce que dans d'autres scènes, c'est Chantal là-dessous, c'est parce que c'est Audrey Lamy, que les scènes sont aussi cool, moi, je trouve. C'est plus marrant qu'à l'écrit grâce à eux.
Beaucoup de scènes d'action avec Elodie. Le curseur a été poussé souvent très loin. Justement, t'as choisi Elodie pour incarner Laura parce que tu savais qu'elle pouvait aller loin justement là-dedans.
Ah bah oui, moi je connais très bien Elodie et je savais que le personnage pouvait lui coller parfaitement. Et je la félicite parce qu'elle a bossé, elle s'est refait les 144 épisodes du dessin animé pour vraiment choper les mimiques, enfin voilà, les expressions du personnage. Et je suis très fier d'elle parce que le créateur Tsukasa Ojo, quand il a vu le film, le personnage qu'il préfère, c'est le personnage de Laura interprété par Elodie. Donc grosse fierté.
Quelle a été pour toi la scène la plus impressionnante à tourner, Elodie?
La plus impressionnante, bah moi celle que j'avais hâte de faire, c'était celle dans l'usine où il y a une baston générale. Ouais. Moi, c'est vrai que je fais un peu de boxe, donc tout ce qui est ce genre de scène, j'adore. Je ne demandais que ça. Donc non, elle était hyper impressionnante. Le décor était dingue, c'était sublime. Il y avait énormément de monde, d'acteurs, de gens pour cette scène-là, et c'était hyper impressionnant. Et ce côté effectivement où on se bat un peu à la Mister et Mrs. Smith, on va dire, dans cette scène, j'avais tellement hâte de le faire et c'était génialissime, j'ai adoré. C'était hyper chorégraphié, c'est vrai qu'on a fait appel, Philippe a fait appel à une bande de jeunes pour chorégraphier ces scènes d'action et ils ont fait un travail incroyable et du coup on l'a vachement bossé effectivement en amont et je trouve que la scène est géniale, donc j'avais un gros coup de cœur pour cette scène-là.
Alors moi j'ai bien noté à la fin du film, sans spoiler, il y avait marqué à suivre. Donc moi j'ai hâte maintenant de savoir un petit peu si tu travailles déjà sur la suite et si toi Elodie t'es partante évidemment pour incarner Laura aussitôt.
Oui, ah bah moi j'ai dit c'est le personnage que j'ai préféré jouer. J'ai pas fait 70 films hein, mais en tout cas j'ai un gros coup de cœur pour Laura, donc évidemment que je serais la plus heureuse du monde si on pouvait continuer et faire une suite. Après effectivement on sait que ça dépend du public, donc on attend, on croise les doigts, on touche du bois, on fait panter des trèfles, on y croit.
Ouais, on a marqué à suivre au cas où. C'est sur un coup de chance, bon, si le film marche. Donc voilà, on croise les doigts, ça dépend pas de nous. Nous, évidemment, on aimerait bien, on a un tas d'idées, l'œuvre originale est très très riche, donc il y a plein de choses à faire, donc voilà, c'est le public qui décidera pour nous. Parce que c'est un film c'est un peu un pari ce film. Il n'y a pas eu beaucoup de films comme ça, d'adaptations, de mangas en France. Donc voilà, si le public suit, et ben on suivra aussi.
Prenez le message, venez nombreux, vous allez vous marier, vous allez adorer.
C'est dans deux jours, dans les salles, c'est le film à ne pas rater pour ce 6 février. Et moi je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde pour ce film et toute la réussite possible pour qu'on puisse se revoir le prochain coup.
Oui, et on en profite pour te remercier pour ton soutien. Tu étais là depuis le début, donc merci beaucoup. Merci à toi.
Merci à tous les deux. On se quitte avec la bande-annonce et on retrouve la suite de l'équipe juste après. À très vite.
Merci.
Merci. Salut.
Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous ? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Mon père était scientifique. Il a créé un sérum d'amour, rendant irrésistible celui qui l'utilise. Ce parfum inodore provoque chez celui qui le respire une explosion de l'attirance émotionnelle.
C'est n'importe quoi ce parfum. Mais j'annonce, hein, si ça marche, je change de sexe.
Pour un plus grand ?
Très marrant.
Oh mon Dieu, la mallette !
Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette ?
47 heures.
Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?
On est venu vous aider.
Il est complètement con, lui.
Oh, Dieu ! Ils sont coincés.
Non !
Et on continue bien sûr à parler de Nicky Larson dans quelques instants. Kamel Gwenfoot, Julien Ruti et Tariq Boudali nous rejoignent. Alors ne bougez pas, on revient dans 3 minutes, à tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
T'as vraiment un problème avec les femmes, hein ?
Je vois pas de quoi tu parles. Excuse-moi de lire.
Moi je sens pas du tout ce truc là.
Fais-moi confiance.
Allez super. En avant Gagan.
C'est bon, j'ai trouvé une voiture.
Ah bon ?
Allez, on va continuer à parler hein, de Nicky Larson. Vous le savez, c'est plus que notre coup de cœur hein, de cette semaine. C'est pour nous le film de février à ne pas rater. Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Et après, bien Philippe Lachaud et Elodie Fontan, on a le reste de l'équipe qui nous rejoint. Kamel Gwenfoot, c'est comme ça qu'on dit ?
Gwenfoot.
Ouais. Gwenfoot. Salut Kamel, merci d'être avec nous. Tu joues le rôle de Mammouth.
Exactement.
Que les fans du dessin animé connaissent bien, bien évidemment ce personnage.
Un personnage clé du dessin animé.
Exactement. Tarek Boudali qui joue le rôle de Poncho. Salut Tarek.
Salut, comment ça va là ?
Ça va très très bien. Et toi, comme tu dis, on t'a filé le rôle du vilain.
C'est ça, je suis moche et bête.
on va en parler dans un instant. Et Julien Ruti, alors je sais pas si Julien en fait il a couché cette fois-ci, mais lui il a le droit à toutes les scènes avec Pamela Anderson. Ça va Julien ?
Salut, oui ça va très bien. Écoute, moi j'ai le rôle du moche aussi, parce qu'en même temps je suis pas très beau, mais chanceux.
T'as une belle raie en tout cas, j'ai bien aimé la coiffure.
Ah, t'as aimé ma raie ?
Ouais. Je sais pas comment. J'ai adoré. Ça commence très fort. Bon, en tout cas, Nicky Larson, voilà, on a parlé, on a planté un petit peu le décor avec Philippe et Elodie. C'est très fidèle au dessin animé. Les fans vont s'y retrouver, bien évidemment. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette scène de début avec toi, Kamel, puisque ça démarre très très fort, hein, évidemment, dans le film. Et ta rencontre avec Jari.
Exceptionnel. Non, c'était super sympa. Il y a des belles scènes d'action. Et ben la rencontre avec Jari, elle était. Je vous laissais le découvrir. Elle est sympa.
Exactement. Vous allez découvrir parce que tu le tiens bien. Par... Voilà. Hein, on va pas en dire plus, mais on va bien rigoler, je pense.
Cette scène, je m'en rappelle plus.
Ouais, c'est ça. Nous, on a vu des choses, en tout cas, à l'écran.
Un Jari très en forme.
Exactement. Comment t'es arrivé dans cette aventure, Kamel?
Ben, je suis passé par la case casting. Voilà. Et en plus, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. J'étais un grand fan du dessin animé. Et puis après, moi, j'étais très fan de leurs films. De leur manière de faire, on rigole tout le temps, et puis je savais que ça allait être un film, on allait rigoler. Et donc voilà.
Et je peux vous dire que nous, en tant que téléspectateurs, on rigole beaucoup aussi. Tarek, la première fois que Philippe t'a parlé du projet, t'as dit voilà, je voudrais adapter Nicky Larson au cinéma. Tu t'es dit quoi? Tu lui as dit t'es fou, c'est un pari complètement dingue, ou tu lui as dit ah mais oui, faut y aller?
Bah, moi je me suis dit, faut forcément, s'il y en a un qui est capable d'adapter Nicky Larson, c'est bien lui. C'est-à-dire que c'est un grand fan, c'est un fan de la première heure de Nicky Larson, tout comme nous hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'il a une vraie vision, tu vois, et dans son humour, je trouve que ça ressemble aussi beaucoup à Nicky Larson, tu vois, donc l'humour visuel, etc. Donc pour moi, c'était, j'étais pas flippé, au contraire, je me suis dit, il va se mettre la pression, je le connais très bien, Philippe, c'est un bosseur, et je savais qu'il décevrait personne, c'est-à-dire qu'il va pas décevoir les fans de Nicky Larson, et en même temps, il va pas décevoir les gens qui aiment bien nos films d'habitude, tu vois. Ça veut dire que même les gens qui connaissent pas Nicky Larson vont s'y retrouver dans le style d'humour.
C'est vraiment un mélange, voilà, c'est vraiment la bande à Fifi, Nicky Larson, les deux mélangés, mais ça donne, j'aurais pas vu quelqu'un d'autre le faire, hein, là t'as raison là-dessus.
Ouais, c'est pour ça, franchement, je te dis, ouais, c'est pour moi, c'était comme une évidence quand il m'a dit j'ai envie de faire Nicky Larson, bah, pour moi, c'était quelque chose de naturel, tu vois, je me suis pas dit, ouh, qu'est-ce qu'il fait, ou, non, pour moi, je me suis dit, ah, bah, c'est, ouais, carrément, il a complètement raison.
Et Julien, toi, qu'est-ce que tu t'es dit quand il t'en a parlé la première fois?
Bon, en fait, on l'a écrit ensemble. Avec Pierre Dudan et Pierre Lachaud et Fifi et moi. Et ouais, quand il a eu cette brillante idée, on s'est dit c'est génial parce qu'on va s'éclater à écrire ce film parce que c'est une grosse comédie d'action, mais c'est avant tout une comédie. Donc l'univers comique de Nicky Larson est très cohérent avec le nôtre. Et donc voilà, donc on s'est dit amusons-nous quoi, et on s'est amusé du début jusqu'à la fin.
Alors le personnage de Gilbert a beaucoup de scènes avec Pamela Anderson. Comment ça s'est passé avec Pamela?
Ouais, c'était dingue. Écoute, Pamela, elle est hyper simple. Elle est venue sur le plateau tranquille, toute seule. On était assez surpris. On s'est dit, wow, elle va venir avec un staff, truc, machin et tout. Et en fait, non, c'était hyper fluide. Elle est fun. Le matin, quand on arrivait sur le tournage, elle nous faisait des blagues et tout.
C'est bien débrouillé en français en plus.
Ouais, de ouf, ouais. Non, si, elle gère en français. Elle comprend très bien. Elle parle un peu moins bien qu'elle ne comprend, je crois. Mais elle se débrouille super bien, ouais.
Alors Poncho, évidemment, qui a été contaminé par ce parfum de Cupidon, n'en a qu'après Laura dans le film.
C'est ça, en fait, c'est un peu le boulet, c'est-à-dire que c'est une personne qui est un peu dérangée, mais qui est très dérangeant surtout en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là derrière le dos de Laura et de Nicky Larson, et il les suit un peu tout au long de l'aventure. Quoi. C'est un vrai boulet par excellence.
Tu t'es amusé?
Bah ouais, grave, tu vois. Quand t'es juste comédien, t'es beaucoup plus détendu, tu vois. Donc moi, je me suis éclaté, j'étais avec les copains, tu vois. On a fait une très belle rencontre avec Kamel, qui est un super comédien. Et en plus, humainement, il est extraordinaire. C'est une vraie belle rencontre.
De lui
Franchement, c'est une vraie belle rencontre, Kamel. Vraiment, je pense qu'il ira très loin. Et bah, avec Julien aussi, bah, on s'éclatait quand on faisait les cons sur le plateau.
Kamel, quelque chose à rajouter?
Ah ben moi aussi, une super rencontre avec toute l'équipe. Déjà, ils m'ont appris le métier de comédien, ceux qui m'ont fabriqué, c'est ce que tu vois à l'écran, ben c'est eux qui me l'ont appris. Et en plus, humainement, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. En 3 minutes, j'ai fait partie de la famille, et puis ça, c'est super important pour moi.
Ta scène la plus impressionnante pour toi à jouer, quand t'arrives comme ça sur un plateau de cinéma, sur Nicky Larson?
Je sais ce que t'as envie d'entendre.
Ah non, pas forcément, il y en a plein.
Je sais, c'est celle où je suis allongé.
Par exemple.
Ben, je vais pas dire ça, je vais vous laisser le découvrir. Non, moi, ma scène, c'est la scène de bagarre dans l'hôpital, avec Philippe. On a pris 3 jours à la tournée, parce que moi, quand je regardais ça à la télé, je pensais pas que ça prenait autant de temps. 3 jours à tourner, et puis en même temps, j'essayais de pas bousiller Philippe, donc c'était super sympa à faire.
Et quand t'as vu le rendu à l'écran, tu t'es dit quoi? Ouais.
En fait, moi, j'ai voulu rien voir avant la projection officielle. J'ai pas voulu voir les rushs, j'ai rien voulu voir. Et en fait, quand je me suis vu la première fois, c'est waouh, ah, c'est moi qui ai fait ça quand même. Et c'était super sympa, le rendu, l'histoire, tout. Et on s'éclate, on rigole, c'est ça qui me fait... C'est le but de tout ça, en fait.
Quand tu sais que c'est que le début d'une aventure, il y a marqué à suivre à la fin. Hein. Moi, j'ai bien vu. Hein. Si je peux spoiler un petit peu la fin, c'est qu'il y a marqué à suivre. Et ça, je l'ai bien enregistré. Donc, Mammouth, il est présent dans toutes les aventures, normalement.
Ben, normalement, ouais. Mammouth, il est là. C'est un personnage clé. Mais je pense que tout le monde sera là. Parce que t'as vu, on change pas une équipe qui gagne.
Exactement, une équipe qui gagne. Quel a été pour vous votre plus beau souvenir de tournage à tous les deux aussi? Tarek, ta scène la plus impressionnante?
Bah, c'est la scène du lit avec Julien. Hein, parce qu'il y a une course-poursuite avec un lit qui est tracté dans les rues de Monaco. Et c'est vrai que nous, on s'est bien amusé. C'est une scène qui a duré 10 jours hein, de tournage pour la faire, de nuit. Et on s'est, malgré le froid et tout ça, on s'est vraiment bien amusé avec Julien.
Et tourner à Monaco même, parce que c'est pas facile d'avoir les autorisations pour tourner à Monaco. Alors en plus, une scène où on tracte un lit, ça doit être encore moins facile.
Bah, y a une partie à Monaco et puis il y a une partie sur les routes de Nice, on va dire. Tu vois, il y a une sorte de nationale. À un moment, on est sur une nationale. Ça, c'est une route qui part de Nice à Monaco, je crois.
Et toi, Julien, scène la plus impressionnante, c'est celle-là aussi?
Ouais, impressionnante et drôle aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment en plus, c'est assez impressionnant cette scène parce qu'on est tracté sur un plumard. Il est 3h du matin et il y a des, donc on l'a tourné 1000 fois. Et il y a des scènes, il y a un moment où il y a un scorpio. C'est une voiture avec technique de tournage avec un bras, tu sais, articulé au bout duquel il y a une caméra. Et donc à un moment où on tournait, la voiture, elle était vraiment à 5 cm de Julie. D'ailleurs, à un moment, elle nous a touché la voiture. Moi, j'ai hurlé, j'ai eu peur. Et lui, cet idiot, Tarek, il était mort de rire, lui. Moi, je suis sorti du rôle. Je faisais « Ah, hé, oh, ça va pas, non ?» Et lui, il était mort de rire. Il s'en foutait complètement. Mais ouais, non, cette scène, c'était vraiment cool à faire. C'était cool.
Alors, je crois que tu auras été chanceux jusqu'au bout parce que c'est toi aussi qui as partagé la scène avec Dorothée à l'aéroport.
Écoute, c'est ça. Tu vois, quand t'es auteur, enfin co-auteur, tu te fais plaisir aussi des fois. Du coup, de tourner avec Dorothée, c'était un peu hors du commun. Parce que tu tournes avec la nounou de ton enfance.
Qui nous a tous gardés mercredi après-midi.
Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'était hyper cool. En plus, on fait une petite vanne, t'as vu, avec les chaussettes et tout. Et... Non, non, c'était vraiment sympa. Elle était détendue et très cool en plus.
Des belles références tout au long du film. Voilà, ça va vous rappeler certainement beaucoup de souvenirs. On va arrêter là, malheureusement, notre spécial Nicky Larson, mais je vous encourage évidemment à aller voir le film. On en reparlera mercredi dans la quotidienne, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite évidemment tout le meilleur à tous les trois. Et puis, une belle aventure qui va se poursuivre, j'en suis sûr. Merci Kamel.
Merci Alain, merci beaucoup.
Merci Tarek.
Merci beaucoup Alain.
Et merci Juju.
Merci Alain.
Et puis, je vais pas résister. On va terminer par le générique de Jean-Paul Césari. Allez, c'est parti.
Une ombre file dans la nuit. C'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. Un coup de frein, des pneus qui crient. Un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle le Nicky. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne. Nicky Larson ne craint personne.
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News. Tout de suite, l'infomédia.
Ah, ça fait du bien tout ça, ça rappelle des souvenirs. Juste avant d'accueillir dans quelques instants Fanny Gilles et Caroline Proust, eh bien c'est l'infomédia de la semaine. À commencer par le groupe M6 qui a annoncé être entré en négociation exclusive avec le groupe Lagardère pour lui racheter son pôle télévision qui comprend notamment la chaîne gratuite Gulli et les chaînes payantes Canal J et TGI. Ce projet constitue une opportunité unique pour le groupe M6 de compléter son offre audiovisuelle à destination des familles. Note la chaîne dans un communiqué, la chaîne Mezzo n'est pas comprise hein, dans le projet d'acquisition. Outre les antennes pour la jeunesse, M6 mettrait aussi la main sur des chaînes payantes de divertissement telles que L-Girl TV, MCM, RFM TV et MCM Top. Le samedi 16 février à 21h, M6 lancera la 10e saison de sa série NCIS Los Angeles. Deux épisodes inédits seront programmés ainsi que plusieurs rediffusions lors de cette soirée. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, eh bien Kalen, Sam et Kenzie tentent de trouver un moyen de quitter le Mexique et de sauver sauver Dix, inconscient depuis l'attaque de leur voiture au lance-roquettes, alors que le NCIS fait son possible pour les rapatrier d'urgence. L'agent Mosley comprend le prix à payer pour avoir récupéré son fils. Bonne nouvelle pour les fans des Marseillais, W9 lancera le lundi 18 février prochain à 18h50 la nouvelle saison des Marseillais qui iront en Asie cette fois-ci. Deux épisodes seront ainsi programmés pour ce lancement et après un épisode chaque jour de la semaine. Cette année, les Marseillais donc voient grand et s'envolent pour le continent asiatique basé à Phuket. Ils vont multiplier les voyages et n'ont pas fini d'être éblouis. La Thaïlande et ses paysages impressionnants, la féerie de Hong Kong et les temples du Cambodge, le Vietnam et ses rizières, ils vont véritablement vivre un rêve éveillé. Le mardi 19 février prochain 21h, M6 lancera son nouveau docu-réalité intitulé Le sens de l'effort. Aujourd'hui en France, 3 millions de jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ces jeunes hommes et femmes ne sont pas des délinquants, ce sont des jeunes sortis du système scolaire et professionnel et qui ne font rien de leur journée. Leurs parents sont désespérés car leurs enfants ont tout abandonné et ont perdu toute motivation. Alors un ancien militaire, Marius, est instructeur chez les commandos marines, est persuadé que les valeurs militaires peuvent sauver ces décrocheurs. C'est pourquoi il a créé un stage destiné à aider ces jeunes à sortir du décrochage. C'est donc 22 jeunes dont on va suivre le parcours, qui ont entre 18 et 24 ans et qui ont donc accepté de participer à cette formation militaire. Le mardi 19 février prochain en prime time, Laurent Ruquier présentera un nouveau prime time sur France 2. Celui-ci sera intitulé Le Grand Oral. Qui sera la meilleure oratrice ou le meilleur orateur? 12 candidats, oratrices et orateurs amateurs. Ils ont de 18 à 78 ans. Ils viennent de divers univers, d'outre-mer, de nos campagnes, de nos villes et de nos banlieues. Certains n'ont pas le bac, d'autres sont doctorat ou médecin. 12 candidats aux origines, aux parcours, aux histoires et aux façons de parler très différentes. Tous entretiennent avec la parole un rapport singulier. Tous en font au quotidien un usage particulier, mais ensemble ils partagent le même goût pour la langue et les mots. Et face à eux, un jury populaire constitué de personnalités qui ont toutes fait de la parole leur meilleur outil pour transformer leur quotidien et celle des Français. On retrouvera dans ce jury notamment Roselyne Bachelot, Oxmo Puccino, Dominique Besnéard, Sonia Roland et la humoriste et avocate Caroline Vigneault. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'infomédia de la semaine.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va reparler de Sam qui a fait son grand retour, vous le savez, lundi dernier sur TF1. Et tout au long de la diffusion, nous allons mettre à l'honneur les comédiens de cette série avec Fanny Gilles qui est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Alors on va voir les épisodes 3 et 4 ce soir sur TF1. Moi je voudrais un peu m'attarder aussi sur le rôle de Véro. Comment on pourrait la définir, Véro?
Véro, c'est quelqu'un qui est d'abord animé, je pense, par une vraie bienveillance et l'envie de faire bien son métier, de transmettre ses connaissances. Mais elle a, je pense, par le passé, des expériences qui font qu'elle a besoin de ce cadre et besoin, et donc elle, ça la rigidifie un petit peu. Et donc c'est ce qui explique son côté un peu comme ça nerveux. Et cette difficulté qu'elle a à être confrontée avec Sam, puisque Sam, c'est le non-cadre, c'est la liberté, et ça va la pousser dans ses retranchements, dans son noyau dur, et ça la, c'est pour ça qu'elle réagit avec autant de violence à Sam. Et en même temps, pour moi, elle est vraiment animée par cette volonté de faire bien son métier.
À la fois, ça serait pas un peu jaloux, justement, de cette liberté que s'offre Sam? On a un peu cette impression, hein, un peu un sentiment de frustration justement dans le personnage.
Oui, bien sûr. Moi, ce que je m'imagine, c'est qu'en fait, à un moment, elle a été confrontée dans sa vie plus jeune à cette liberté, et je pense qu'elle y est allée et qu'elle s'est pris un mur, et donc maintenant, elle sait qu'elle peut pas y aller. Mais donc effectivement, elle en a peur profondément, et en même temps, elle a tellement envie. Effectivement, elle a cette jalousie. Peut-être qu'elle est dans le déni de sa jalousie. Hein. Juste, elle se dit juste, non, mais de toute façon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire, c'est pas bon, on n'y va pas. Mais effectivement, il y a aussi cette jalousie, cette envie, et au fond, je pense qu'elle est fascinée par Sam, vraiment. Et il y a quelque chose, et en plus, je pense qu'elle la trouve belle, elle la trouve libre, et toutes ces choses qu'elle ne s'autorise pas, elle, à être, et qu'elle ne s'autorise même pas à penser qu'elle aimerait être, en fait.
Alors évidemment, une CPE jamais très aimée dans un collège ou un lycée, on peut le dire, mais est-ce que là, Véro, c'est peut-être la CPE qu'on adore le plus détester?
Mais c'est
par l'élève, hein.
C'est exactement ça, exactement ça. Je pense que il y a une vraie jouissance à la voir justement être
s'énerver, humilié,
en échec, ne pas respecter. Parce qu'effectivement, je crois que probablement on a tous une expérience de CPE ou quoi, un petit peu contraignante. Il y a un truc, une espèce de catharsis. On peut vivre un peu ce besoin de se venger un peu. Ouais, c'est vraiment ça, bien.
Vous avez un peu lu la genèse de ce personnage de Véro dès la première saison. Qu'est-ce que vous vous êtes dit s'est dit c'est un cadeau ce rôle ou c'est un rôle comme un autre ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ce rôle de Véronique?
Au début, en fait, il était assez peu développé en saison 1, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, et j'ai même pas eu de bible en fait sur le personnage. J'avais ça. Et en revanche, je me suis dit, tiens, et elle était un peu plutôt rigide. Dans ce qui était écrit, c'était plutôt d'abord ce côté-là. Elle servait justement à être. Elle était opposante à Sam. Elle c'était un faire-valoir pour Sam. Et
c'est un peu le miroir contraire.
Exactement. Et plus elle était effectivement rigide, plus ça valorisait ça. Mais c'est ça qui était intéressant. Et moi, j'avais essayé d'y glisser un peu quand même des trucs d'humanité dedans. Et c'est vrai qu'après, on a vraiment développé ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'à la base, j'avais pas beaucoup d'infos là-dessus. J'étais juste très contente d'être sur ce projet-là parce que je trouvais que c'était extrêmement bien écrit. Mais c'était plus voilà l'idée d'être dans un projet vraiment enthousiasmant. En sachant que moi j'avais une partie qui était pour l'instant assez discrète, mais je faisais partie de quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis après, j'ai eu la chance que ça soit vraiment développé de plus en plus et ça va continuer à l'être. Et ça me rend super heureuse, bien sûr.
On va découvrir en tout cas la suite donc des aventures de Sam avec tout ce que ça comporte, cette folie. Alors évidemment, voilà, c'est une saison un petit peu plus tournée hein, sur le côté dramatique. Dernière question que j'avais envie de vous poser, Fanny. La saison 4 va bientôt... Elle est en écriture, donc va bientôt se tourner. Quelles évolutions ou quelles petites scènes ou quelles évolutions vers le personnage de Véro vous aimeriez qu'ils apportent?
En fait, déjà, dans cette saison 3, ce qui est très intéressant, c'est que Véro commence justement dans cette joie d'être arrivé à quelque chose, mais qu'elle a obtenu par la volonté. Elle est très très volontaire et qui va se craqueler et donc elle craque un peu, elle va ouvrir, elle va lâcher prise et justement dans cette saison 4, ce qui va être doublé, j'en suis très heureuse, c'est finalement comment quelle est la vraie Véronique derrière les boucliers, derrière tout ça et justement on va révéler d'autres parts d'elle très intéressantes et du coup ça va ouvrir des histoires avec les personnages très intéressantes. Moi, je suis très heureuse des bribes qu'on m'a dites.
Et du coup, les scénaristes vont gratter un peu hein, sur le personnage.
Vont gratter beaucoup.
Ça, c'est bien. Ça va nous offrir des belles scènes pour la saison 4. J'en suis certain. Fanny, merci infiniment d'être passée nous voir. Je vous rappelle les épisodes 3 et 4. Eh bien, c'est ce soir à 21h10 sur TF1. Rendez-vous à ne pas rater. Merci, Fanny.
Merci à vous.
On termine avec la bande-annonce, bien sûr.
Lundi prochain, deux épisodes inédits de Sam.
Salut.
Salut, Sam.
Je serai là, quoi qu'il arrive.
Je suis pas encore morte.
En cas de besoin, je serai toujours là pour toi.
Je vous préviens, pinard, pizza, ce sera mon régime alimentaire, quels que soient mes résultats.
Alors vous allez me faire le plaisir de foutre le bordel, mais tout de suite.
Non.
C'est tout mon corps qui va pas. Je veux pas être une femme.
C'est du harcèlement, là, t'as vu? Tu quittes immédiatement le collège, Sam.
Mais t'es vraiment une saloperie, maman.
Ouais, mais tout de suite, ça va mieux.
Et juste avant d'accueillir Caroline Proust, eh bien, c'est un de nos coups de cœur aussi cette semaine. C'est le grand retour de Top Chef, mercredi, sur M6 pour sa saison 10 inédite. Et je peux vous dire que l'émission, pour sa 10e année et son anniversaire, met les petits plats dans les grands. Bande annonce.
Allez, c'est parti.
Ouais. Cuisson ratée.
Pourquoi moi?
Tac, tac, tac.
Tiens, combat de brigade.
Tous les deux, là.
Oh. Recule d'une case, tiens. Paf. Une chance.
Dessert aux légumes.
Oh, ça c'est pas beau. Cool. Revisite.
Ça va écouler, c'est la vérité. Mais si, attends.
Je crois, ça suffit. Oh.
Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qui m'attaque?
Moi aussi, on m'attaque.
Michel.
Ah, mais non, mais c'est pas moi.
Jean-François?
Vous avez l'air bien vous amuser. Moi aussi, cette année, j'ai une brigade. J'espère que ça vous dérange pas.
Ah bon, non.
Oh, non. Super.
Welcome, Jean-François.
Cool.
C'est chaud, hein.
Cette année encore, c'est la guerre des chefs. De tous les chefs.
Vous miseriez sur qui, vous, cette année? C'est juste pour savoir.
Top Chef, bientôt sur M6.
Et c'est notre coup de cœur ce soir, évidemment, sur Canal+, avec le grand lancement de la tant attendue saison 7 d'Engrenage. Son héroïne, Caroline Proust, est avec nous, alias Laure Berthaud. Bonjour, Caroline.
Bonsoir, bonsoir à tous les habitants de la Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Je suis très heureux de t'avoir, Caroline. C'est presque un rendez-vous qu'on se donne à chaque début de saison, comme ça, dans Grenage. Et là, c'est la 7e saison. J'ose imaginer toute l'équipe heureuse de reconduire une série tellement critiquée positivement depuis ses débuts.
C'est incroyable. incroyable. On a un succès qui ne se dément pas. Là, on a encore eu tous les journalistes qui étaient présents à la conférence de presse et avec un enthousiasme toujours. Enfin, ils sont chaque fois de plus. Ils trouvent que c'est une meilleure saison. Donc, on est vraiment extrêmement heureux. Et cette saison, en effet, là, on va aller dans les arcanes des cols blancs et c'est vraiment des nouveaux décors et on va aller encore une fois très très loin et je l'ai vu et je trouve que c'est remarquable. Voilà, on a eu un changement cette année d'auteur et on avait évidemment des craintes parce que quand on avait Anne Landois, eh bien on était tous très très fans de son travail. Et puis là, on a Marine Francou qui a fait la showrunner sur cette année-là et sur cette saison-là et qui nous a fait un travail vraiment aussi tout aussi remarquable. Donc on est très contents.
Alors avant d'attaquer évidemment le fil rouge de cette septième saison, est-ce que toute l'équipe est consciente qu'aujourd'hui, Engrenage a été un tournant quand on parle de qualité dans la fiction française, et notamment de son évolution depuis maintenant quelques années? C'est souvent Engrenage qui est pris en exemple.
Bah oui, bah maintenant il y a, c'est-à-dire que les séries qui sont prises en exemple en fait sont des séries qui sont diffusées sur Canal+, donc vraiment on peut reconnaître aux séries originales de Canal+ vraiment toutes les qualités qu'elles ont. Et j'avoue que voilà, moi j'ai des amis qui me disent bon bah je me réabonne parce que finalement quand même le travail qui est présenté sur Canal c'est pas la même chose que sur les autres chaînes, hein, enfin sur les autres plateformes. Et donc moi je vois quand je vois le Bureau des légendes, quand je vois propose comme série, c'est toujours d'une qualité, mais vraiment, c'est du très haut niveau pour moi. Et évidemment, je peux pas avoir le recul sur Engrenage parce que je suis partie prenante, mais je sais que les retours qu'on en a, en effet, sont remarquables. Mais c'est pas à moi de je peux pas défendre ça de cette manière-là puisque je suis pas une spectatrice normale puisque je suis actrice dedans.
Alors évidemment, on va suivre cette septième saison avec impatience. C'est 12 épisodes que l'on va retrouver dès ce soir avec une capitaine Laure Berthaud en pleine dépression, mais qui va pas tarder, je pense, à faire son retour.
Vous allez voir, je suis quand même très amochée. Le lancement, vous allez voir, c'est vraiment... c'était quelque chose à faire, mais en même temps, ce qui se passe au début, c'est tellement... surprenant, ils ont été vraiment très courageux de prendre la décision d'éliminer le personnage qu'ils ont éliminé, qui est un personnage fort, emblématique et qu'on aimait tous. Et en fait, ça lance la série et voilà, et ça va être, on va évidemment, comme toutes les saisons, bah, on va enquêter sur ce cadavre-là et ça va faire avancer dans des endroits qu'on n'a pas fréquentés jusqu'alors. Voilà.
Alors, on sait que Fred Bianconi est parti sur un Si Grand Soleil sur France 2. Comment a été vécu ce départ pour toute l'équipe?
Bah c'est triste parce que voilà, quand quelqu'un s'en va, c'est à chaque fois c'est toujours quelque chose d'un peu douloureux parce que c'est, mais toutes les bonnes choses ont une fin et voilà, et un jour un grenage ça va s'arrêter aussi et je pense que voilà, il faudra que tout le monde prenne, c'est un deuil, c'est un moment, les séries quand ça dure comme ça, il y a un côté familial et quand un membre de la famille s'en va, bah c'est difficile, voilà.
Est-ce que ça va encore évoluer, les relations entre Gilou et Laure dans cette saison?
Bah, à votre avis?
Bah, moi, je le sens bien.
Bah, oui, on va pas faire toujours la même chose.
Ça serait triste
sinon,
à la fois.
C'est ennuyeux pour les spectateurs.
Bon, ce fil rouge, en tout cas, on va le suivre au long de ces 12 épisodes. Est-ce qu'on va avoir vraiment une enquête qui va nous tenir en haleine du début à la fin ou est-ce qu'on a plusieurs histoires bouclées dans cette saison?
L'enquête est absolument remarquable, vous allez voir, et il y a aussi évidemment ce qui arrive à Joséphine, ce qui arrive au juge, enfin il y a plein de choses qui se passent, mais l'engrenage fonctionne très très bien, c'est-à-dire que évidemment il va y avoir les relations, c'est ça qui est difficile dans l'écriture et c'est ça qui est remarquable. Les scénaristes arrivent toujours à entremêler les histoires de façon étonnante et c'est vraiment réussi.
Voilà pourquoi ça s'appelle Engrenage à la fois. Alors la saison 7 est tournée, elle appartient au public à partir de ce soir sur Canal+. La saison 8 est déjà en écriture. Hein.
C'est ça, ils sont en train d'écrire la saison 8 depuis un petit moment déjà pour qu'on puisse commencer à tourner plus rapidement.
Donc voilà. On risque d'avoir un petit peu moins de temps entre les deux saisons là.
C'est ce qui devrait se passer.
Combien de temps tu te vois encore, Caroline, dans Engrenage? Tu aimerais idéalement passer un cap peut-être des 10 saisons?
Non. Non. Pour moi, là, la prochaine saison, c'est la dernière saison.
Donc la 8e, ça sera le couperet final pour Laure Berthaud.
Ouais, absolument. Pour moi, c'est ça.
Est-ce que tu as des projets pour la suite dans 2019? Est-ce qu'on va te voir dans d'autres choses, téléfilms, cinéma?
Très rempli par engrenage, en fait. Hein. Ça va nous mener jusqu'à la fin de l'année. Et juste à la toute fin de l'année, je vais commencer les répétitions d'un spectacle de théâtre pour jouer au TLS à Strasbourg. Et ensuite, on partira en tournée. Je ne sais pas dans quelle ville on va aller, mais j'espère qu'on viendra en Aquitaine. J'espère qu'on viendra jouer à Toulouse ou à Bordeaux. Je ne sais pas du tout quel est le planning des tournées. C'est un spectacle qui s'appelle l'Eden Cinéma, qui sera mis en scène par Christine Le Tailleur.
Eh ben écoute, voilà. Tu sais pas, on va regarder s'il y a des dates déjà de planifier, le temps d'écouter la bande-annonce évidemment de cette saison 7, et on informe nos auditeurs juste après.
Merci beaucoup.
C'est nous qui te remercions, merci d'avoir été une nouvelle fois avec nous Caroline, on te souhaite une bonne diffusion, en tout cas de cette 7e saison, et moi je vous souhaite à vous auditeurs eh bien, d'être autant captivés que les 6 autres pour cette 7e saison inédite d'Engrenage qui démarre ce soir à 21h sur Canal+. Merci Caroline.
Au revoir, à la prochaine.
Et tout de suite la bande-annonce.
Il y a de la drogue qui circule dans cet établissement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui gère ce trafic.
Vous voulez quand même pas que je vous balance des noms?
Tout de suite, les mots de voyous.
Tu vas faire tout ce que je te dis. Sinon, tu vas vivre en enfer ici.
Tu me veux ton shit? Tu vas l'avoir. Mais à ma manière.
Au centre, le cash. Les dealers d'un côté, de l'autre, les fraudeurs en col blanc. Ce qui fait la force du réseau, c'est celui qui a connecté tout le monde.
Création originale. Engrenage, saison 7 inédite. Lundi 4 février sur Canal+.
Allez, je vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de Chute en écoute la télé consacrée au programme du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Christian Cap, le délégué général du festival, sera avec nous dans 3 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite.
Bouge pas. Chute en écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chute en écoute la télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Du 6 au 10 février, le Festival Télé de Luchon vous présentera le meilleur de la fiction, du documentaire et du web. France Télévisions, partenaire du Festival de Luchon.
Et on va terminer donc cette émission Chute en écoute la télé eh bien par le Festival de Luchon hein, qui va ouvrir ses portes mercredi. Dans 2 jours, on y est. Eh bien oui, c'est la 21e édition déjà avec Christian Cap aux commandes. Cette année qui est le délégué général du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Bonjour Christian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ça y est, le festival est sur les rails. Dans 2 jours, c'est le grand bain, le bain de foule évidemment, pour les dizaines de comédiens, d'artistes, réalisateurs et de documentaires également qui seront à Luchon pour fêter la création télévisuelle tous ensemble.
Oui, alors c'est assez fabuleux cette année parce que en dehors de la colonne vertébrale historique que sont les fictions et les séries, puisque là on a vraiment une bonne vingtaine de projections en avant-première. On a aussi une section documentaire qui s'est énormément renforcée avec un jury exceptionnel et une cérémonie de remise de prix un peu plus tôt qui va mettre au cœur aussi le documentaire dès le début du festival.
Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que le documentaire, les autres années qui avaient le droit à un seul prix, eh bien cette année le jury va être aux anges puisque c'est 14 documentaires en compétition, c'est 7 avant-premières de documentaires aussi qui seront présentés à Luchon et il y aura 4 prix par le jury et 1 par le public, donc c'est 5 prix docu hein, cette année.
Alors oui en effet, alors le jury documentaire arrive dès le mardi, donc dès demain. Et nous avons dès 9h, très beau film en compétition de Rosemary. Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy? Ça, c'est, on parle souvent du handicap. Vous vous rendez compte, c'est la fille aînée des Kennedy, qui avait un léger dyslexie et un petit peu d'autisme, qui, pour ne pas faire de l'ombre à l'aîné des garçons, le père Kennedy l'a complètement isolée et l'a fait énormément souffrir au point qu'elle en est devenue tétraplégique. Donc c'est vraiment une école de la tolérance et du handicap, et c'est en même temps une leçon d'histoire fantastique. Et nous avons beaucoup de documentaires qui traitent de thèmes d'actualité extraordinaires, très riches et surtout très positifs.
Dont on vous parlera évidemment dans nos émissions futures. Alors la fiction, c'est la colonne vertébrale hein, évidemment du festival. C'est 7 téléfilms, 9 séries et mini-films, et puis 10 avant-premières. Alors le tout est évidemment jugé par un jury de prestige, présidé cette année par Dominique Besnéard, le célèbre producteur de 10%.
Oui, alors nous allons évidemment mettre à l'honneur sous cette forme Dominique Besnéard qui va présider le jury. On a un plateau fabuleux qui l'entoure Et c'est quasiment une dizaine de membres, compositeurs, réalisateurs, scénaristes, des comédiens de haute qualité, et ils ont énormément de boulot cette année, ils vont récompenser de multiples prix, et aussi, dans la foulée, va être mis à l'honneur une grande personnalité qui a fait le plus grand succès de la télévision française en 2018.
Et oui, qui est Muriel Robin.
Alors ça, c'est fabuleux, parce que c'est un coup de cœur, déjà, au mois d'octobre, et ça nous a permis vraiment de... On en a discuté, je dis, Muriel, vraiment, je voudrais que le festival vous mette à l'honneur. Et elle m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème, et on est en train de lui réserver un certain nombre de surprises. Et cette soirée, d'ailleurs, de clôture, qui va mettre à l'honneur, remettre les prix, mais aussi prix de la fiction, mais aussi mettre à l'honneur Muriel Robin, va profiter de cette mise à l'honneur pour utiliser des nouvelles technologies de l'audiovisuel, puisque cette année, pour la première fois sur le Festival de Luchon, nous allons aborder tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, hologramme, tout ce qui peut faire la télévision de demain avec l'utilisation des nouvelles technologies.
Alors c'est un festival tourné résolument vers le public à fond. Cette année, ils vont être aux anges puisqu'ils vont voir tous leurs comédiens préférés de Demain nous appartient en passant par Les Mystères de l'amour, Camping Paradis ou encore Plus belle la vie, ainsi Grand Soleil. Toutes les séries quotidiennes seront présentes au Festival de Luchon pour la première fois.
Hein. Oui, alors c'est assez fabuleux. À partir du vendredi, bon, le festival commence vraiment le mercredi à 9h avec beaucoup de séries et du documentaire. Mais il est vrai que le vendredi et samedi, la ville de Luchon va être en ébullition, puisque non seulement il y a des projections en avant-première, mais il y a aussi des séances d'autographes. Et on a deux événements fabuleux qui sont liés à la musique. La première, c'est Alex Jaffray qui va nous faire en avant-première le son d'Alex. C'est un son spectacle qui va mettre, où le public pourra accéder, puisqu'il va faire sa première à Paris le 12 février. Et aussi, nous avons, tout le monde se souvient du film Les Choristes, qui était une fiction avec Gérard Jugnot, et qui est fabuleux, qui s'appelle C4, le chant des possibles. Et nous avons la chorale de Creil, du nord de la France, qui va venir. Nous avons 17 chanteurs qui vont aller sur le documentaire, vont interpréter des chansons avec Elsa. Donc l'esprit quand même du festival, c'est de donner des émotions, créer une vraie relation entre les artistes et le public, et puis d'essayer de permettre au travers des projections et du spectacle de faire vibrer tout le monde, quoi.
Alors je pense qu'effectivement, Luchon va vibrer. Un jury, on le disait, hein, composé de personnalités comme Bédabar ou encore Gwendoline Amon, hein, l'héroïne de Cassandre. Et puis toutes ces avant-premières aussi, ça c'est nouveau. Hein. On a vraiment une section avant-première qui permettra aux Luchonnais et à tous ceux qui seront présents de voir des fictions qui seront diffusées dans les prochaines semaines à la télé. Hein.
Oui, alors Alice Nevers, Cassandre qui seront présentés. Et puis évidemment, vous avez un festival, c'est toujours pour détecter les perles de la fiction ou des séries, mais c'est aussi de permettre de créer des événements. Et c'est vrai, par exemple, en compétition, mais c'est aussi un événement, il y a Candice Renoir, il y a Section de Recherche, et toutes les équipes de films sont présentes, puisqu'on a 25 équipes de films présentes sur le festival cette année.
Alors les web-séries ne seront pas en reste aussi, hein, puisqu'ils auront aussi leur jury. Hein.
Oui, alors ce qui est fabuleux, c'est que vous avez web-séries, séries digitales. On a introduit cette année les séries digitales documentaires. Donc on a deux jours qu'on appelle le village du numérique, où vous aurez des projections de web-séries, séries digitales documentaires. Et vous aurez aussi, pour le public, la possibilité de vivre des expériences en réalité virtuelle. Par exemple, Thomas Pesquet sortant dans l'espace. Là, c'est une avant-première. Nous avons aussi, vous allez pouvoir naviguer dans la préhistoire, côtoyer en réalité virtuelle des dinosaures, les côtoyer, les toucher. Et tout ceci pendant le vendredi et samedi. Donc c'est la vraie rencontre de l'audiovisuel et du public. C'est ça Luchon en vérité.
Alors un plaisir de revenir sur les terres d'un festival que vous avez créé, Christian.
Oui, alors moi je l'ai créé en 99 parce que je faisais beaucoup d'aide au tournage. Je travaillais pour des producteurs comme, vous voyez, Tramontane, les grandes séries, Tramontane, Méditerranée, La Femme du Boulanger, Le Comte de Monte Cristo. Et c'est avec ces producteurs que nous avons décidé en 90 de monter une sélection télévisuelle qui est devenue ce qu'est aujourd'hui le Festival de télévision de Luchon, et avec ces comités de sélection, une rigueur dans l'organisation, quelque chose d'extraordinaire, c'est une mobilisation des bénévoles, puisque 150 bénévoles travaillent à l'organisation de cette manifestation.
Et toutes les chaînes de télé seront présentes pendant ces 4 jours de fête aussi à Luchon.
Oui, alors cette année, non seulement elles sont là de par la fiction, on a une très très belle avant-première en compétition, c'est Un avion sans aile, E de ZLE, pour M6. On a Les ombres rouges pour C8 du groupe Canal+. Mais aussi, dans le cas des documentaires, nous avons toutes les chaînes, sans exception, de documentaires en France, que ce soit Canal+, ce soit RMC Découverte ou RMC Story, ou Chaya TV ou Histoire, ou que ce soit Arte, France Télévisions avec France 2, France 3. Donc vraiment, on a un panorama des programmes de télévision qui est très très exhaustif. En gros, c'est la télévision, Luchon, c'est la télévision pour tous.
Alors bien sûr, hein, on vous fera vivre ces 4 jours sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé en temps réel, hein, des Facebook Live, des photos, des vidéos à ne pas manquer. On va terminer ensemble, Christian, par une petite liste, hein, de personnalités que l'on pourra croiser dans les rues de Luchon pendant ces 4 jours. On pourra croiser entre autres Bruno Solo par exemple. Hein.
Oui, alors Bruno Solo, alors c'est quand même le recordman de cette édition. Il est producteur ou comédien dans 3 films en compétition.
Très bien.
À vrai dire, c'est quand même extraordinaire parce que tous les producteurs avec qui je travaillais me disaient « il vient ». Ah, fabuleux. Mais vous en occupez ? Ah non, non, c'est l'autre producteur. Et il n'y avait aucun des producteurs qui s'en occupait. Donc, c'est quelqu'un qui est notre idole puisqu'on nous en occupait directement et il va être tous les jours sur scène pendant cette manifestation, ce qui est fabuleux. Il va être avec le public et il adore Luchon.
Quelles seront les autres personnalités qu'on pourra croiser, Christian ?
Vous avez en ouverture, vous avez Jean-Luc Reichmann qui va présenter en avant-première, en ouverture, hors compétition, Léo Mattei, puisque la Brigade des mineurs, puisqu'elle sera diffusée sur TF1 le 14 février. On a dans les jurys, vous avez Marie Drucker qui est dans le jury Claire Borotra, vous avez Frédéric Bell, vous avez Nadia Farès, vous avez Antoine Duléry. Beaucoup de personnalités présentes à la fois dans les films et dans les jurys.
Eh bien, des rendez-vous à ne pas manquer. Les comédiens de vos séries quotidiennes préférées, bien sûr, aussi seront là. Christian, on se retrouve dans 2 jours.
Eh bien, dans 2 jours, avec un petit peu de soleil, parce qu'a priori, le soleil arrive après 7 ans des Jeux.
Eh bien, voilà, on espère en tout cas. On va essayer de vous l'amener. Merci, Christian. Très belle soirée à tous. En tout cas, pour ce lundi, on vous laisse ces dernières 48 heures, à peine, puisque dès demain, c'est le documentaire à l'honneur, pour vous préparer à Luchon. Et nous, on arrive, on prend la route. Merci, Christian.
Merci, à mercredi, au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, eh bien, ça sera une spéciale Festival de Luchon avec les invités du festival qui seront avec nous, de Jean-Luc Reichmann au président du jury. Bref, ils seront tous dans Chute, on écoute la télé avec également les réactions exclusives des lauréats que nous pourrons évidemment avoir à la cérémonie de clôture en fin de semaine. Pour suivre toutes nos aventures au Festival de Luchon, rendez-vous sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Et lundi prochain, bien sûr aussi, Charlotte Gassio viendra nous parler de son rôle dans la série Sam. Et puis notre coup de cœur ciné sera consacré à All Inclusive, puisque nous recevrons François-Xavier Demaison, qui est aussi la voix dans Ralph 2.0, le dernier Disney. Donc de nombreuses surprises vous attendent lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine pour Chute, on écoute la télé, la quotidienne sur Zoom Radio à 10h45 et 12h30. Et puis évidemment, je vous donne rendez-vous pour la grande hebdo dès lundi prochain à 18h. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et une très belle soirée évidemment à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chute, on écoute la télé avec votre jardinerie Astvert, votre spécialiste jardin, alimentation animale et motoculture à Saint-Astier.
Chute, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Dordogne sur lucien-georgelin.com.